On en jase jusqu'à 14h. On en jase.
Émission On en jase sur les ondes du 102.1. Il est présentement 13h17. Ça va être l'heure d'aller rejoindre notre chroniqueur Rémi Villemur. Mais avant, Pascal, rappelle-nous ce décès d'une grande de la culture québécoise, c'est-à-dire Béatrice Picard.
Oui, je pense qu'il faut le nommer. Là. On l'a fait en début d'émission, mais la comédienne Béatrice Picard qui est décédée à 96 ans. C'est une femme qui, dans la dernière année, au niveau de la santé, avait eu quelques enjeux et pensait se rendre à ses 97 ans cependant. Puis elle a marqué de la communauté québécoise. Alors, tout le monde en parle aujourd'hui à la machine à café et autres. On se rappelle son parcours par aussi le fameux passage de sa grande voix, son grand jeu de Marge Simpson dans Les Simpsons. Dans Les Pierres à feu aussi, on l'a entendu dans les années 60. Sinon, elle a marqué la télévision par Le petit monde du père Gédéon, Survenant, Rue de Lens, Quelle famille, Saint-Forien, plus près de notre génération, Un gars et une fille, Virginie, Une été neuf, Les jeunes loups et District 31. Donc, beaucoup de la communauté culturelle sont en deuil aujourd'hui. C'est un grand phare de tout ce qu'on a créé au Québec qui s'est éteint malheureusement.
Clairement. Alors, nos sympathies à la communauté culturelle, nos sympathies également à la famille de Béatrice Picard. Moi, évidemment, Béatrice Picard, ça sonne Marge Simpson. Je suis tellement un grand fan de l'émission Les Simpsons. On s'en va rejoindre à Montréal au 99.5. Excellent animateur du lundi au jeudi de 18h à 19h et également les samedis matins de 8h à 10h. Rémi Villemur, comment vas-tu?
Ça va super bien, vous deux.
Ça va bien. Rémi, 56% des jeunes de 18 à 34 ans n'ont pas confiance en nos médias traditionnels. Et là, le chroniqueur François Cardinal de La Presse nomme plusieurs enjeux. Il dit « Les jeunes n'ont jamais vraiment connu un monde où les grands médias occupaient une place centrale. Les jeunes ont la méfiance par défaut avec l'idée même qu'un média puisse être crédible et ils rejettent que le journaliste comme tel, c'est-à-dire l'idée que l'autorité journalistique serait automatique. Qu'est-ce que tu penses de ces hypothèses-là de M. Cardinal?
Bien, je préciserais qu'il est, en plus d'être chroniqueur, c'est quand même l'éditeur adjoint du journal. Donc, c'est quelqu'un qui, quand il se lance dans cet exercice-là, qui est un exercice nécessaire, qui vise à comprendre la méfiance des plus jeunes, bien, on espérerait que cette personne-là est jusqu'au bout de la réflexion parce que qu'un journaliste s'intéresse à ça, c'est bien, mais que le boss d'un journal et de l'information d'un journal s'intéresse à ça, c'est encore plus intéressant le point de vue de cette personne-là.
Oui, parce que s'il veut attirer des lecteurs, ben, il n'a pas le choix de se poser des questions puis de trouver les bonnes réponses.
Oui, puis ce n'est pas la première fois qu'il s'intéresse à ce sujet-là. Il s'était exprimé par le passé sur la montée en popularité des influenceurs de l'information, notamment lorsque la journaliste Alexandre Drolet était devenue influenceuse, s'était lancée avait lancé sa chaîne « Elle explique ». Les explications qu'il donne, tu les as bien résumées, elles ne sont pas suffisantes. Hein? C'est qu'il en manque. Le problème, il est juste là. Il se trompe, c'est qu'il manque des explications. Avant d'y venir, juste préciser une chose, la génération Z, celle qui, à 56%, fait de moins en moins confiance aux médias traditionnels, c'est les gens de 18 à 34 ans. Donc, moi, j'ai 31 ans. Et contrairement à ce que François Cardinal avance, j'ai vécu à une époque où s'il y avait juste les journaux et la radio et la télévision qui nous offraient l'information. Moi, je me rappelle d'un monde où, pour savoir si le Canadien avait gagné, tu n'allais pas sur Internet, tu allais chercher le journal devant la maison, puis tu mettais un pied dehors pendant qu'il faisait fret, puis tu tirais le journal, puis tu regardais, puis c'était marqué 3-1 pour les Bruins. Puis tu étais comme « Ah, quand je me suis couché, c'était 1-0 Canadien ». C'est pas tout à fait vrai. Non, mais c'est pas tout à fait vrai.
Non, en effet.
Que les jeunes ont toujours grandi avec une panoplie d'outils à leur disposition. La deuxième affaire, l'idée de la méfiance par défaut, ça j'aime bien. C'est vrai qu'on est méfiant par défaut, on fait de moins en moins confiance aux individus autour de nous. La vérité, c'est quelque chose qui existe plus tant que ça. À l'université, en sciences sociales, la vérité, là, je vous dirais, elle passe un mauvais quart d'heure. C'est quoi un homme, c'est quoi une femme? Là, c'est compliqué de s'entendre là-dessus, donc ça va quand même loin. L'explication qui manque, et je veux bien accepter. Je veux bien en convenir que c'est difficile pour un éditeur adjoint d'un grand journal de le reconnaître, mais elle existe quand même, cette explication-là. Et pour moi, elle est à la source du problème. C'est que les médias traditionnels, comme les humains, ont commis, par le passé, des erreurs. Ils se sont trompés. Ils ont manqué leur coup. C'est ça qui est arrivé une couple de fois.
À quel endroit?
Ben, par exemple, tout récemment, le montage trafiqué du discours de Donald Trump, le jour de l'assaut du Capitole.
Excellent exemple.
par la BBC, là, pas par un média obscur d'extrême-ci, d'extrême-ça. La BBC, c'est Radio-Canada en Grande-Bretagne. Donc, on a trafiqué un discours. Par la suite, les gens qui étaient en charge ont démissionné, mais ça engendre une méfiance. Moi, j'ai 31 ans, puis c'est rendu que quand je lis un article de la BBC, je ne dis pas que j'y crois pas, mais je suis méfiant. La méfiance, ça veut juste dire je suis sur mes gardes, je suis vigilant. Je n'accepte pas tout ce qu'on me présente comme une vérité et un fait. Ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple que je peux vous donner, je regrette, c'est encore de la politique américaine, mais c'est la santé cognitive de Joe Biden. Pendant des années, on nous a dit, il a toujours été de même. Il a toujours un temps chargé dans ses mots. C'est un ancien bègue. Sur cette photo-là, on dirait qu'il regarde ailleurs, mais c'est parce qu'il regarde. Et là, à un moment donné, il y a eu le débat avec Donald Trump et il s'est effondré complètement devant des dizaines de millions de personnes.
C'était pathétique.
Les médias traditionnels qui avaient nié un peu la santé cognitive, l'état de la santé cognitive de Biden, ont été obligés de reconnaître que c'était lamentable. Oui. Et ils l'ont reconnu en retard. Donc là, ça commence à faire beaucoup d'exemples. Puis je pourrais vous parler de tous les débats entourant l'immigration de masse. Pendant des années, on disait que ça n'existe pas vraiment de l'immigration de masse, ça n'a pas vraiment d'impact sur le logement, ses services sociaux, sur l'anglicisation de Montréal. Puis aujourd'hui, tous les partis politiques s'entendent à l'Assemblée nationale pour dire qu'il y a des inconvénients. Donc, pendant des années, les journalistes n'étaient pas consensuellement là à dire « ben oui, c'est sûr que si vous faites rentrer des centaines de milliers de personnes d'un même coup, ben il y a un impact. »
Mais je t'écoute, Rémi, là, puis la problématique, c'est que maintenant, les journalistes, et là, je ne parle pas des chroniqueurs, je parle des journalistes, ont nécessairement un billet quand ils traitent un sujet. Là. Tu parles de l'immigration, là. Si moi, je suis pro-immigration, ben, je vais avoir tendance à montrer un petit peu plus le côté que, ben non, il n'y en a pas de problème, il n'y aura pas de crise du logement et tout ça.
Ben, en fait, tu poses la question nécessaire du journalisme et de la chronique. Moi, j'entends beaucoup, beaucoup des gens dire il y a trop de chroniqueurs au Québec, il n'y a pas assez de journalistes. Et moi, à chaque fois qu'on me dit ça, je dis, ben, les chroniqueurs, au moins, ils te le disent qu'ils font de la chronique. OK? Si les journalistes reconnaissaient d'emblée qu'ils ont une subjectivité parce qu'ils ont un passé, ils ont des expériences de vie, ils ont des idées, ils votent, hein, les journalistes, le saviez-vous qui votaient, hein, qui votent pour des partis politiques, ils ont des idées, ces gens-là. Donc, si d'emblée, ils reconnaissaient que le journalisme objectif, ça n'existe pas, à part quand vous donnez la météo, là, OK, du journalisme, c'est forcément intéressé, bien, peut-être qu'on n'aurait pas ce débat-là à savoir si il faut-tu être méfiant, faut-tu essayer de lire entre les lignes et tout ça. Moi, je pense qu'il y a trop d'orgueil dans ce milieu-là. On devrait être capable de reconnaître qu'on a fait des erreurs, qu'il y avait des pommes pourries dans le panier, qu'on s'en est débarrassé, qu'on a quand même une tradition, une richesse dans l'exécution. On a une expérience de travail qui prouve qu'on est quand même fiable. Mais si on dit « non, ce n'est pas arrivé » ou qu'on trouve des excuses quand ça arrive, j'en ai entendu une couple là, dire, par exemple, quand Joe Biden, ça a été montré au grand jour qu'il était, disons, sur le plan de la santé cognitive, beaucoup en déclin, bien, oui. Il disait « oui, mais ce n'est pas qu'on n'en parlait pas, c'est parce qu'on voulait juste mais non, vous n'en parliez pas. Vous n'en parliez pas, donc ça a blessé du monde. Il y a des gens qui sont demeurés méfiants, puis c'est difficile de rebâtir une confiance. Ça prend du temps. »
Mais je pense que c'est intéressant et important ce que tu dis, Rémi, puis on a un devoir à chaque jour de s'auto-évaluer. Hein. En plus, on travaille dans les médias, mais je pense, initialement, dans notre quotidien, peu importe ce qu'on fait dans la vie, parce qu'on est biaisé. On a assurément des angles morts, puis ça revient sur certaines discussions qu'on a eues. Mais je pense qu'il y a des personnes qui voulaient pas parler de l'état cognitif de Joe Biden en se disant « ben on va avoir l'air faible ». Mais le point est pas « est-ce que nous sommes faibles de peut-être être plus à gauche au niveau du courant politique du côté des États-Unis ?» C'est « Joe Biden avait des problèmes cognitifs, en a toujours, il est affaibli ». Faut en parler, ça reste un problème politique actuellement. Est-ce qu'on a la meilleure personne au pouvoir pour gérer tous les enjeux actuels qui grouillaient aux États-Unis et qui grouillent encore, on s'entend? Ça ne veut pas dire que c'est Donald Trump non plus, ça ne veut pas dire que c'était Joe Biden, ça ne veut pas dire... Peu importe, c'est des choses dont il fallait jaser. Puis choisir de ne pas en jaser, c'est aussi choisir de rester dans la médiocrité. Je pense...
Absolument. T'as le bon mot. C'est exactement ça. C'est choisir la médiocrité parce qu'en bout de ligne, c'est ça qui attend les gens. C'est que si c'est mal fait un travail, ça demeure mal fait. C'est une mauvaise copie. Vous avez mal travaillé. Tu sais, Joe Biden, c'était pas le propriétaire de la roulotte à patates frites là, au coin de la rue. C'était le président des États-Unis. Donc, de s'intéresser à sa santé cognitive, il n'y avait rien d'insensible là-dedans, il n'y avait rien de cruel. Et d'ailleurs, on s'est précipité à le faire quand Donald Trump est devenu président, et on le fait avec raison de se demander si cet homme-là est encore qualifié sur le plan intellectuel. Il a l'air de s'endormir des fois lorsqu'il donne une conférence de presse. Il n'y a rien de cruel là-dedans. C'est l'homme le plus puissant du monde. J'espère qu'on se demande une couple de fois, une fois de temps en temps, s'il est bien placé pour faire ce
Ouais.
travail-là. Tu
On
sais,
perd de la
mais.
crédibilité, sinon, honnêtement, dans tous les
Ben
discours,
oui, ben
là.
oui. Puis tu sais, une autre preuve que le discours journalistique peut être biaisé. J'entends beaucoup des gens dire, depuis que Trump est au pouvoir, il s'attaque à l'université, il y a de la censure dans l'université. Il n'y avait pas de censure à l'université avant Donald Trump. Ah, je ne savais pas ça.
Moi non
Mais
plus.
non, mais tu sais, donc, il y a ça aussi. Puis je sais que c'est cynique, je sais que ça ne nous fait pas vraiment avancer, mais au contraire, ça nous fait avancer lorsqu'on s'entend sur les bases de la suite des choses. On peut tourner le dos d'une certaine façon à ce qui s'est passé et améliorer nos pratiques. Et la confiance, ça se retrouve. Ça prend du temps. Mais si tu ne reconnais pas tes erreurs, et n'importe qui est capable de le faire, hein? Un plombier est capable de dire qu'il a mal fait sa job, un peintre est capable de dire j'ai pas utilisé la bonne peinture, un cuisinier est capable de dire Colin, j'ai mis des arachides là-dedans, c'est de ma faute. Mais pourquoi un
Ouais.
journaliste ne serait pas capable de faire ça?
En
Je me le
effet,
demande. Pas
honnête.
des
Ah oh non, je suis tellement d'accord. Honnêteté sur le billet, justement, que ces journalistes ont fait. Rémi, féministe, pour moi, ça sonne positif et je m'explique parce que c'est grâce à des courants féministes qu'aujourd'hui, les femmes ont le droit de vote, les femmes tendent vers l'équité salariale et les femmes ont les libertés qu'ils ont à l'heure actuelle au Québec et au Canada. Masculinisme maintenant, consulté 8 fois plus en 2025 qu'en 2024. C'est un mot qui, pour moi, pour la population, sonne négatif, alors que normalement, ça devrait sonner positif comme le féminisme. Comment qu'on explique ça?
Bien, en fait, je pense que c'est un mot qui a été pris en otage. C'est-à-dire que c'est un mot qui a été créé et défini par des gens qui avaient une idée derrière la tête. Puis c'est pas la première fois de l'histoire que ça arrive. Je rassure les auditeurs, là. C'est pas inédit, non. Mais le masculinisme, sur le plan de la construction du mot, si tu viens de le dire, ça devrait vouloir dire à peu près la même chose que le féminisme, mais du côté masculin. Alors qu'aujourd'hui, je me trompe pas, je pense, si je dis que masculinisme, il y a déjà un mot qui définissait exactement ce que c'est. Puis ce mot-là commence par M, puis c'est misogynie. Donc, un misogyne, c'est un masculiniste, puis un masculiniste, c'est un misogyne. Donc, je me demande pourquoi, si on avait déjà le mot misogyne à notre disposition, il était nécessaire de créer un autre mot et de lui insuffler un sens qu'on retrouvait déjà ailleurs. Je regrette, mais des gars, par exemple, qui décident de se réunir en boys, puis de parler de trucs de gars, probablement qu'aujourd'hui, aux yeux de quelques personnes, à savoir combien, je ne sais pas, mais ce sont des masculinistes. Ce sont des gars qui sont entre gars puis qui parlent de trucs de gars. Donc, je trouve ça plate parce que ce mot-là aurait pu être utilisé de la bonne façon. Évidemment, je le précise, le féminisme a une origine et a une vocation à aller chercher des droits, à lutter pour obtenir une égalité. Je veux dire, je pense que les hommes n'ont pas vraiment besoin de faire ça. Donc, je comprends l'idée
Ouais,
que.
encore là, je te donne une pause parce que moi, je pense qu'un masculinisme bien assumé, bien fait comme le féminisme a été fait à l'époque, permettrait sûrement à des pères de famille d'aller chercher plus de droits dans des cas de séparation. Puis je t'explique qu'il a fallu créer un mouvement Cool Dad pour expliquer que les pères, c'était pas juste des tortionnaires,
Mais dans
mais
les
qu'ils
deux cas,
prenaient soin aussi de leur enfant.
il y a des extrêmes, puis je trouve ça plate qu'on ait stéréotypé la chose. Je viens d'aller retaper sur Google, je viens d'alimenter ces
Ah ouais, donc,
recherches-là
vas-y.
finalement. Puis je me suis dit, OK, ben est-ce que l'assemblage, la définition est finalement stéréotypée et ou péjorative dans le cas du masculinisme? Puis les premiers mots qui sortent, c'est souvent défini comme un mouvement réactionnaire, misogyne, androcentré. Là, je trouve ça plate parce que dans le féminisme, il y a des extrémistes qui ont pris contrôle de ce mouvement-là, qui était finalement d'avoir un certain droit pour les femmes, de pousser une égalité homme-femme. Puis des fois, il y a eu, bon, de l'exagération dans certains groupes féministes qui étaient plus extrêmes. Puis on le voit aussi dans des groupes masculinistes où j'aurais aimé que ça soit pas péjoratif, puis que ce soit juste des hommes qui disent « Ah, ben là, peut-être qu'à ce niveau-là, nous, on n'est pas en égalité avec la femme. Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut avoir une possibilité, finalement, d'avoir les mêmes droits puis de vraiment travailler tous ensemble dans l'égalité? » Il y a quelques années, j'avais fait un clash entre un masculiniste et une féministe, puis c'était pas des extrêmes. Mais ça reculait d'il y a 10 ans, quand j'avais organisé ça à la radio. Maintenant, 10 ans plus tard, automatiquement, on est dans le préjugé, on est dans ce que les extrémistes ont amené comme définition des deux mouvements. Puis on a perdu. Moi, je pense qu'on a perdu.
Ben oui, puis je souhaiterais dans un monde idéal que ce mot-là soit récupérable,
oui,
mais
je pense pas.
Qui va oser dire sur la place publique « je suis un masculiniste »? Attendez, maintenant voici la définition de ce que c'est. Alors, on va lui sauter à la gorge, on va monter le truc pour faire en sorte que son explication ne vienne pas lorsque va être le temps de présenter ce qui s'est passé. Donc, ce mot-là est peut-être perdu à tout jamais, ou en tout cas, bon, l'histoire elle peut nous surprendre, mais pour un bon moment. Donc, maintenant, les gars qui décident de se réunir entre gars, pas à tous les soirs, à la tombée de la nuit, là. Une fois de temps en temps, entre boys, ça existe. Hein?
À taverne.
À taverne, mettons. Puis qui décide d'entretenir un discours positif sur les gars, de peut-être aussi de remarquer qu'il y a des trucs qui ont été perdus, pas aux mains des méchantes féministes, mais peut-être certaines façons de se projeter dans la vie. Parce que c'est peut-être mal vu aujourd'hui. Tu sais, un gars qui décide, par exemple, d'être courtois, élégant, des fois, c'est mal vu. Des fois, c'est mal vu. Donc, peut-être d'en discuter avec des gars, de dire « moi, j'aimerais ça », tu sais, ben, peut-être qu'il va falloir s'appeler autrement, mais il va falloir créer un autre mot. J'espère au moins que cet autre mot-là ne sera pas lui aussi récupéré.
En effet, tu as entièrement raison. Rémi Villemur, je t'adore. Tu nous fais toujours réfléchir différemment. C'est toujours un bonheur de te parler dans l'émission « On en jase ». On se parle jeudi aux alentours de 13h, comme à l'habitude. Je vous souhaite une bonne sortie de sondage à Montréal. C'est demain, si je ne me trompe pas. Puis nous autres, c'est jeudi, fait qu'on pourra te parler de nos résultats.
D'abord tous les deux.
Salut Rémi, merci beaucoup Rémi Villemur, excellent animateur au 99.5 Montréal du lundi au jeudi de 18h à 19h et les samedis de 8h à 10h. Bon.
C'est triste, tu sais, en texto, on voit souvent des auditeurs nous commenter en disant tout mouvement masculin est voué à la diabolisation, particulièrement par l'extrémiste féministe. Puis c'est vrai, on devrait tous ensemble travailler pour regarder, bon, où est-ce qu'il y a des manques au niveau de la condition féminine, où est-ce qu'il y a des manques au niveau de la condition masculine, est-ce qu'on est capable de, main dans la main, avancer, puis je veux pas qu'on embarque dans un débat genré.
Non, non, mais t'as entièrement raison.
Mais on est tous nos alliés rendus, puis je comprends pas pourquoi ça se passe pas comme ça.
Ben, c'est drôle, parce que moi, je me définis autant féministe que masculiniste.
Même chose.
Parce que je suis pour le droit des femmes, je vais toujours militer pour ça. Puis là, tu sais, je peux t'en nommer plein, le droit à l'avortement, etc.
Puis je pense que par le manque aux femmes dans les dernières années, dans les décennies, il y a des hommes qui ont vu ça aller puis qui ont fait « ben non, ça peut pas être comme ça ». Sans eux, là, il y aurait pas tous ces droits de la femme-là qui ont été rétablis.
Pas pour rien que je suis laïque puis que je prône la laïcité. La religion faisait en sorte qu'elle faisait un clash entre les hommes et les femmes et qu'elle rabaissait la femme.
À chaque fois que je parle de mon métier en tant que tel, moi, je suis entrée là-dedans, j'avais 19-20 ans, Jeff, c'était tout du monde de 40-50. C'était presque tous des hommes autour de moi. Les femmes étaient confinées. Pour certaines, elles adoraient ça, puis c'est correct.
Ouais, ouais.
Mais à la culture, à la météo...
T'as tellement
raison. Moi, je me
souviens
de ma grand-mère qui dit, il y en a plein, des femmes dans les médias. Check comment c'est le fun, ils font la météo. Puis ça, je suis comme, moi, c'est pas ça que je veux faire. Puis t'es comme, ben, tu peux faire ce que tu veux.
Non.
Mais ça, c'était une femme. Sauf qu'il y a des hommes qui m'ont laissé participer aux émissions, qui m'ont pas demandé d'être une yes woman, qui m'ont pas demandé. Et tranquillement, pas vite, il y a de plus en plus de femmes qui ont eu cette voix-là pour jaser politique. T'as des Jeannette Bertrand qui ont pavé une route, mais qu'il y a des hommes qui ont fait « Hey, Madame Bertrand, go! »
Ouais.
Et on vous le donne, le poste.
Imagine, il n'y a même pas eu encore une présidente aux États-Unis.
Mais c'est un, mais c'est un travail de société, puis c'est un travail de main dans la main entre les sexes. On ne devrait jamais diminuer un homme qui dit « Hey, là-dessus, on dirait que je me sens pas égal à ma conjointe ou à ma collègue. » Mais non, on devrait s'écouter.
T'as entièrement raison, Gav. On a un excellent texto ici. Le masculinisme parle aussi des tabous et de la fragilité de l'homme. Tellement
vrai.
T'es en santé mentale, les gars, il fallait toujours être fort.
Oui.
On n'avait pas le droit de démontrer nos émotions. On était le poteau de la famille. Puis, vas-y, avance. Même si ça fait mal, on refoule ça en dedans. Puis, continue, va travailler, amène l'argent à la maison. T'sais. Alors que c'en est tout autre. Là, puis, quand les hommes s'ouvrent maintenant, on trouve ça beau.
Oui. C'est émouvant, c'est touchant, c'est rassembleur, c'est humain. Moi, je prône ça, qu'on tende la main, puis qu'au contraire, hommes et femmes ensemble, on déplore les mouvements extrémistes.
Oui.
Parce que de toute manière, ça n'a jamais ouvert plus de portes. Ça en a fermé, puis ça a mené à des comportements violents.
Exactement, t'as entièrement raison. Oui, on propose aussi « gentleman », le nouveau mot positif pour le masculin. « Gentleman », la bienveillance pour tout le monde et le vivre ensemble, j'adore.
C'est pourquoi, moi, « gentleman », j'adore moins?
Pourquoi?
Je trouve que ça vous met une responsabilité envers nous.
Ouais, c'est vrai, t'as raison.
Mais je vous adore quand vous l'êtes, là.
Mm-hmm.
Puis moi, j'aime ça prendre soin de vous aussi, à ma manière. Mais je veux pas que vous ayez de pression. je veux aussi être vous dans tout ce que vous voulez et souhaitez être.
T'sais. Ouais, t'as raison que... Hey, t'amènes un tabou intéressant que... Est-ce qu'en couple, c'est plus à l'homme, t'sais, de démontrer ces signes-là?
Encore dans l'égalité. Par contre, moi, je suis l'ironie du sort, Jeff. Mm-hmm. Ça me charme.
Ben, c'est clair.
Ça me charme. Je serai jamais celle qui va être offusquée qu'on m'ouvre la porte, même si je suis très capable de l'ouvrir, ma porte.
Mm-hmm. Mais c'est clair.
Mais jamais je vais m'attendre à ce qu'un homme le fasse.
Mm-hmm.
Il n'y a non, pas à me protéger, il n'y a pas à...
Mais t'as raison, mais t'as raison.
Ça, ça m'appartient. Là.
Mais t'as raison que ça vous charme, puis je me demande si c'est pas...
Une conception de société.
Ouais, c'est ouais. Ça, ancré dans nos mœurs.
Je pense que oui, parce qu'il y a une protection, il y a cette façon-là qui était de courtiser mm-hmm. autrefois. Je pense qu'il y a encore beaucoup l'esprit paternel dans une famille qui est de protection, qui est de pourvoyeur, ouais. qui est de... Puis tranquillement, pas vite, je veux dire, avec l'émancipation de la mm-hmm. femme, il y a des hommes qui ont décidé qu'ils étaient hommes à la maison, puis qui aiment ça, puis qui s'occupent bon, du oui. foyer. Il y a des femmes qui s'en vont travailler. Il y a les deux partenaires, justement, qui mènent à terme un beau foyer, une maisonnée, les vacances, la protection des enfants. Je pense qu'on est tous en train de trouver notre place. Puis j'ai ma place en me disant que ça me charme, mais j'ai aussi ma place en me disant que je peux l'ouvrir moi-même, mais je suis jamais choquée de ça.
Non,
je pense
effet.
Qu'il faut accepter qu'on est en train de modéliser là, la société comme chaque individu l'aime, souhaite, puis on se trouve là-dedans.
Ben
on se
oui.
trouve au professionnel, on se trouve au personnel, entre hommes et femmes, puis on décide de créer ce qui nous plaît.
Non, t'as raison, parce que tu sais, moi, j'ai toujours eu des conjointes qui ont de la drive, là, tu sais, qui sont ouais. full autonomes.
Ça, t'aimes ça.
Très professionnelles, tu sais, que leur carrière prenne place prépondérante dans leur vie. Mais en même temps, dès que je fais un petit geste de courtoisie, c'est, je le vois que c'est apprécié. Hyper apprécié.
Puis d'autres hommes préfèrent une femme peut-être, puis d'autres femmes préfèrent ouais. aussi un homme où ben, l'homme prend un petit peu plus de disposition, s'occupe de préparer mm-hmm. les choses. T'sais, je pense pas que c'est une affaire de sexe, je pense une affaire de partenariat.
Ouais,
c'est quoi
raison.
Tes forces, c'est quoi tes faiblesses, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te fait sentir bien dans une relation. Ça devrait pas être des concepts préécrits, puis on devrait se respecter aussi là-dedans. Mm-hmm. Si moi, du jour au lendemain, je décide, je sais pas, moi, je deviens anxieuse, puis le fait d'avoir un partenaire qui prend plus de choses en main, ben ça me fait sentir bien relationnellement, ouais. ben ça sera ça. C'est mm-hmm. ça. Fait qu'est-ce qu'on est en train de devoir pointer du doigt une femme qui a un partenaire qui prend plus de choses en main, qui est plus, comme on dit, paternel, qui est plus pourvoyeur? Je pense pas qu'on devrait pointer non. ça du doigt au même titre qu'un homme qui décide de lui s'occuper de la famille. Mm-hmm. Par sa carrière, ça a jamais été une passion, ça a jamais été quelque chose qui a été plus important pour lui. Il veut une famille, il aime Mais... ça, puis sa femme adore sa carrière. Mais je pense pas qu'on devrait encarcaner
Non,
des
non, t'as raison.
Vivre.
Mais c'est vrai que tu revires la situation à l'envers, là, que dans un couple, la femme va être PDG d'une grosse entreprise, puis ça va être le gars qui va avoir l'horaire, qui va faire en sorte qu'il va toujours chercher les enfants à la garderie, oui. qui prépare à souper, puis qui donne le bain, là, et qu'il y a du monde qui vont se poser des questions.
Puis pourquoi?
Puis pourtant, on devrait pas se poser ces questions-là.
Ça sert à quoi de regarder chez le voisin?
Ah non, t'as raison.
Dans ton couple, ça change rien.
Ça change
dans
rien.
Dans ta façon de vivre, ça change rien.
Oh non, non, non.
Ça pis t'enlève moi. Et te donne rien.
Puis moi, de toute façon, les décisions de couple et de famille, pour moi, appartiennent au couple et à la famille, dans le sens que l'important, c'est que ces gens-là soient heureux ensemble.
Puis au même titre qu'on devrait être tous ensemble, hommes et femmes, déplorer un droit de vote qui est contesté,
mm-hmm.
le droit à l'avortement qui est contesté.
Mais clairement.
Les pensions qu'un homme paie plus qu'une femme par son sexe.
T'as raison.
Le fait que la garde automatiquement est plus facilement laissée à une femme qu'à un homme des enfants lors de séparation.
T'as tellement raison.
Quand il y a des hommes qui sont beaucoup et de beaucoup meilleurs dans leur rôle parental mm-hmm. que certaines femmes, ensemble, main dans la main, on devrait s'élever puis contester beaucoup plus et déplorer beaucoup plus ces inégalités-là pour faire avancer la société.
Ah, je suis avec toi à 100%. Moi, pour moi, il n'y a pas de différence de sexe, tu sais, dans le, je vais le dire comme ça, dans la profession que tu vas faire, dans la façon que tu vas organiser ta vie, dans la façon qu'en tant que couple et famille, vous allez organiser les choses. Moi, pour moi, il n'y a pas de sexe. Il y a juste deux adultes qui sont ensemble puis qui prennent les meilleures décisions pour les deux et quand ils ont des enfants pour leur famille, ensemble.
Tu sais, moi, je pense que de plus en plus en vieillissant, là, le raisonnement que j'ai face à ça, quand quelque chose dérange, là, c'est que t'es confronté à toi.
Mm-hmm.
T'es confronté à quelque chose que toi, t'as pas.
Ouais,
que toi, t'envies ou que t'es pas capable de vivre avec parce que tu le sais très bien que ça sera jamais dans la tienne.
Ouais.
La jalousie. La jalousie d'un salaire. « Hey, moi, mon boss, un héros dans sa grosse Mercedes. » Oui, il a bien monté sa compagnie. L'as-tu
ben
fait,
oui,
toi?
C'est ça.
Ça te dérange, pourquoi?
Hey, ça, c'est vrai.
Après ça, le couple à côté, mettons.
Ouais.
Il sépare, OK? Puis là, toi, tu vois ta blonde, puis je vais prendre l'exemple, ta blonde qui a mis fin à la relation avec un nouveau chum, puis est heureuse.
Mm-hmm.
Ben, t'es en maudit, fait que tu vas essayer, tu sais, pour certains, d'y faire la vie dure. Ouais. Parce que toi, t'as pas cette vie-là.
Oh oui.
L'énergie que tu mets à haïr l'autre te donne rien, ben te fait même pas grandir.
Mais la construire ton nid à toi.
Exact. Puis c'est difficile.
Ben oui, c'est difficile.
Puis c'est pour ça que les gens manquent de courage. Parfois, c'est parce que c'est tellement difficile, ça prend de l'énergie.
Clairement.
C'est une gestion d'émotions.
Ben, travailler sur soi, c'est-tu pas l'affaire la plus tough dans la vie?
C'est la chose la plus épouvantable. Premièrement, s'en rendre compte de
ben
nos
oui.
torts et nos faiblesses. Puis deuxièmement, travailler en ce sens-là.
Ouais.
Mais on se laisse toujours déconcentrer par ce qui est ailleurs que dans nous.
Ouais.
Le moment où tu arrêtes d'être victime dans ta vie, c'est le moment où tu évolues.
Mm-hmm. Oui, puis là, la faute est toujours sur l'autre.
Fait qu'arrêter d'être victime du sexe différent, puis de l'homme ou de la femme, ou de puis construisez-le.
Ben oui.
Votre fort intérieur, puis votre tout ce que vous voulez, votre carrière, votre maison, comme ça vous fait sentir bien. Mais ça, je veux dire, ouais. c'est dans l'entraide des autres. Pis...
Votre vie vous appartient, les amis.
Ben oui.
Let's go! Construisez votre beau nid positif. Vous en pensez quoi? 418-971-1021, on va récolter vos commentaires. Et également, Pascal, ben c'est le temps de gâter nos auditeurs.
Oui, puis je l'aime ce concours-là parce que parlons-en des gens
oui.
qui travaillent pour les autres puis qui pensent aux autres puis qui décident.
Puis là, ça peut être un gars ou une fille.
Oh oui, c'est sûr. Ça, c'est n'importe qui va participer au concours qui va réussir probablement à mettre la main sur un des beaux tirages qu'on va faire dans tout le mois de décembre. En fait, c'est avec la fromagerie Victoria. C'est pas juste la reine des poutines dans la fromagerie Victoria. C'est aussi la reine des repas maison prête à apporter. Quand vous avez des journées difficiles, des journées pressées, des soirs où ça finit plus, avec les horaires des enfants un peu partout, ou tout simplement pas envie de cuisiner. Pas tout le monde qui aime ça.
Ben non.
Le comfort food par excellence, c'est à la fromagerie Victoria. Puis là, on a un beau panier cadeau de 150 $ à faire gagner immédiatement ce midi. C'est une lasagne, un pâté chinois, un pâté au saumon, un pâté à la viande, un pâté mexicain, le meilleur, une tarte au sucre et un kilo de fromage en grains dans ce panier-là. Et là, on veut connaître les ingrédients qui donnent du kick à vos repas pour participer. Aujourd'hui, je veux savoir ce qui donne un petit kick dans votre pâté mexicain. Qu'est-ce qui vous donne envie de le faire parce que vous savez qu'avec cet ingrédient-là, c'est vous qui avez le meilleur pâté mexicain. Au 418-971-1021, écrivez-nous votre ingrédient maison là, que vous ajoutez à la recette de pâté mexicain. Puis vous allez courir la chance de gagner ce panier cadeau-là de produits maison d'une valeur de 150 $ de la fromagerie Victoria.
Tu me donnes faim, Pascal CV. Alors, 418-971-1021, donnez-nous faim avec votre pâté mexicain. Hey, Val en a fait dernièrement. Oh, son écœurant.
C'est tellement bon, là. Oui. Je trouve que c'est trop oublié.
Exactement. C'est vrai que c'est oublié, ça, dans le temps des fêtes. T'as raison, à 100%. Pascal, par texto, on dit que tu devrais donner des conférences motivationnelles. Ça crinque. Magnifique.
Ouais, je continue de faire de la radio, ça vous dérange
plus. Ouais, ou... non. C'est ça l'émission d'En Jase. Hein? On part des fois sur des sujets comme ça. On est très emballés et on aime ça quand vous participez au 418-971-1021. Courte pause à Boulevard 101. Par la suite, Pascal, on va revenir avec une petite fin d'émission bien rapide.
Ça va. Hey!
Oui, c'est
sérieux?
Ça. Oui, c'est ça. On s'est emballés.
Voyez-vous, je ne ferai pas de conférence en même temps. Je devrais, je n'arrêterai pas de
scraper. Moi, juste te parler du Canadien en soir. Ça a de l'allure, ça? Salut! Courte pause à Boulevard 101. On revient à l'émission, on en jase. C'est vrai qu'on jase pas à peu près.
Hey, mon Dieu, ça va.